Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. À rebours des appels à la prudence, lui demande ouvertement l'escalade avec la Russie. Il appelle à fournir des armes lourdes à l'Ukraine. Le sénateur Horizon Claude Malhuret fait encore parler de lui pour une intervention faite hier à la Chambre haute. Ses propos sont soit qualifiés de courageux, soit de totalement irresponsables. Il sera avec nous vers 19h20, vous pouvez lui parler. Il suffit de nous appeler au 3921, le standard d'Europe 1. Ce sera après le journal d'Hélène Zellani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Tous les moyens sont bons pour lutter contre les déserts médicaux. Même de mettre des médecins de Dijon dans un jet privé pour aller travailler une journée à 9h. Reportage dans un instant. On embauche Airbus, 13 000 personnes, dont 7000 créations de postes cette année. Dans ce journal, déluge de missiles russes sur l'Ukraine, bilan 11 morts. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna est à Odessa. Grève contre la réforme des retraites dans les raffineries et incertitude chez les députés LR sur le vote de cette réforme. Et puis, nous serons en Suède, à Stockholm, où l'équipe de France de handball dispute demain soir la demi-finale du Mondial face aux Suédois.
Voilà, et dans quelques instants, nous allons donc voir comment s'organise ce pont aérien médical entre Dijon et Nevers. Nous en parlerons d'ailleurs aussi après 19h40 avec le docteur Lemoine, président du Conseil de l'Ordre des médecins de la Nièvre. Vos questions, vos réactions sont les bienvenues. Vous connaissez le numéro, le 3921. Valérie Darmand, bonsoir. La tendance météo avec vous.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Et bien sans surprise, le ciel est encore gris et froid avec de la neige sur la montagne noire et le piémont pyrénéen maximal entre 2 à Rodez et 11 à Marseille pour demain.
Météo complète à la fin du journal. À tout à l'heure Valérie. On les appelle les médecins volants. Ce matin, ils étaient 8 sur le tarmac de l'aéroport de Nevers, dans la Nièvre.
Oui, 8 médecins venus du CHU de Dijon en avion pour passer la journée avec leurs collègues du centre hospitalier de Nevers et apporter leur aide. Yasmina Katou était là dès leur arrivée.
À la manière de Maverick dans Top Gun, les Flying Doctors sortent du petit jet privé de 8 places. À peine les pieds posés sur le tarmac, les médecins s'engouffrent dans un van pour 5 minutes de route. Direction l'hôpital de Nevers. Malgré les critiques sur l'empreinte carbone du trajet en avion, les médecins apprécient le confort par rapport aux 2h40 de train.
Depuis 2 ans, on vient assez régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 2 mois pour 2 jours. Jusqu'à là, c'était un train pour moi. Voilà. Donc c'était beaucoup plus long. Et on arrivait la veille d'habitude et pas le matin même. Ça paraît une solution intéressante, oui, qui facilite grandement la vie.
Le docteur Zouak, pneumologue, s'est réveillé 1 heure plus tard grâce au jet privé et enchaîne les consultations. À l'hôpital de Nevers, ce qui manque vraiment, ce sont des spécialistes. Alors grâce à ce pont aérien, les orthopédistes, cardiologues présents ou encore les gynécologues n'ont pas chômé.
J'ai 2 interventions, j'ai une hystérectomie et un prolapsus. Plus après des consultations.
Mission remplie pour les Flying Doctors qui sont déjà de retour à la maison puisqu'ils ont atterri à l'aéroport de Dijon il y a moins de 30 minutes. Prochain vol prévu pour Nevers, jeudi prochain.
Un reportage de la spécialiste santé d'Europe 1, Yasmina Katou.
Restons dans l'aérien avec cette bonne nouvelle des recrutements conséquents chez Airbus.
Oui, on l'a appris tout à l'heure, l'avionneur européen qui a déjà embauché en 2022 s'apprête à continuer sur sa lancée cette année, Noa Moussa.
Et oui, Airbus a prévu d'embaucher plus de 13 000 personnes en 2023, le même nombre que l'année dernière, ce qui va permettre aux géants de l'aviation de compter autant d'employés qu'avant la crise du Covid. Sur les 13 000 embauches, 9 000 se feront en Europe et notamment en France. 70% portent sur des emplois très qualifiés d'ingénieurs, par exemple. Airbus recrute aussi pour assurer sa décarbonation et sa cybersécurité. L'objectif avec ce nouveau plan de recrutement massif, c'est de retrouver un niveau d'activité comparable à 2019, avant la crise sanitaire. L'année dernière, l'avionneur a manqué ses objectifs de livraison, notamment par manque de bras. Toute l'attention se porte sur son best-seller, l'A320. Airbus en produit environ 45 par mois et il veut passer à 65 dès le début de l'année prochaine. Le carnet de commandes de l'entreprise est rempli jusqu'en 2029.
Et puis LVMH annonce des résultats records pour 2022. 79 milliards d'euros de ventes pour le numéro 1 mondial du luxe qui possède notamment Louis Vuitton ou Dior. Et puis un bénéfice net de 14 milliards.
Difficile d'y voir une simple coïncidence au lendemain lendemain de l'annonce d'envoi de chars lourds américains et européens à Kiev, la Russie lance une nouvelle salve de missiles sur l'Ukraine.
Oui, des bombardements qui ont frappé plusieurs régions du pays, faisant au moins 11 morts, Caroline Baudry.
Oui, 55 missiles ont été tirés par les Russes aujourd'hui, dont 47 détruits par la défense antiaérienne de l'Ukraine. Le pays affirme aussi avoir abattu la nuit dernière 24 drones explosifs de fabrication iranienne. En urgence, des coupures d'électricité ont été déclenchées ce matin à Kiev et dans trois autres régions pour éviter de lourds dommages, alors que les Russes visent depuis le mois d'octobre les centrales et transformateurs électriques du pays. À Odessa, par exemple, ce matin, deux infrastructures ont été frappées.
Odessa, où la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, est arrivée ce matin.
Oui, pour marquer le soutien de la France à la souveraineté de l'Ukraine, a-t-elle assuré ce matin sur Twitter. Elle s'est entretenue avec son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, sur les besoins matériels des combattants ukrainiens, notamment. Concernant l'envoi de chars français Leclerc, aucune décision n'est prise, aucune décision n'est exclue, a déclaré la ministre à nos confrères de LCI. Elle rappelle que la priorité des Ukrainiens, ce sont les moyens aériens. Le président Volodymyr Zelensky réclame des avions de combat et des missiles de longue portée aux Occidentaux. Il refuse jusqu'ici de fournir ses armes de peur de provoquer une escalade militaire.
Catherine Colonna qui sera demain en Roumanie à Bucarest. Sachez aussi que le Canada vient d'annoncer qu'il va livrer 4 chars Léopard à l'Ukraine.
Un petit avant-goût de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 31 janvier.
Oui, grève aujourd'hui et demain dans les raffineries et centrales EDF. Des raffineries où le mot d'ordre tient en quelques mots. Rien ne rentre, rien ne sort. Emmanuel Lépine, secrétaire général de la Fédération nationale des industries chimiques CGT, veut que tous les secteurs suivent le mouvement.
On appelle l'ensemble des secteurs à se mettre en grève. Actuellement, on a des discussions très nourries avec les secteurs de l'énergie, services publics, les cheminots, les transports. Nous allons construire cette mobilisation de manière méthodique, de manière à faire reculer le gouvernement et à rappeler à Mme Borne qui produit les richesses dans ce pays. Ça ne va pas durer très longtemps, mais seulement il y a un passage difficile à passer pour faire entendre raison à ce gouvernement pour les générations futures et pour les quelques années qui viennent.
Un propos recueilli par Nina Pavant.
Ce projet de réforme des retraites doit être discuté à partir de lundi en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale.
Ah oui, et si le rejet des Français semble de plus en plus clair au fil des sondages, le soutien du groupe LR s'étiole aussi. Certaines voix s'élèvent en effet chez les Républicains pour refuser de voter la réforme avec la majorité, Arthur Delaborde.
Oui, on se souvient qu'il y a encore 15 jours, le patron des LR, Éric Ciotti, se félicitait d'avoir obtenu des concessions du gouvernement avant de passer un accord avec Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Or, ce soutien politique indispensable pour faire passer le texte est de plus en plus précaire. Pour l'instant, une quinzaine de députés Les Républicains, soit environ un quart du groupe, refusent de voter le texte. Cela signifie concrètement qu'à ce stade, le compte n'y est pas pour la majorité relative. Elle a absolument besoin d'au moins 38 voix supplémentaires, sachant qu'en plus, le gouvernement n'est pas assuré de faire le plein des suffrages au sein même de son propre camp, puisqu'une petite dizaine de députés de la Macronie menacent de ne pas soutenir le texte. S'il ne réussit pas à convaincre, il ne restera finalement qu'une solution pour l'exécutif. Le passage en force via l'article 49.3 de la Constitution ou alors via l'article 47.1 moins connu. Un scénario que le gouvernement veut éviter pour ne pas prendre le risque de renforcer la contestation.
Arthur Delaborde.
Voilà, la réforme des retraites arrive au Parlement la semaine prochaine. Le projet de loi immigration sera présenté lors du prochain Conseil des ministres. Le ministère de l'Intérieur dévoile aujourd'hui les chiffres de 2022.
Oui, ce qu'il en ressort avant tout, c'est le nombre record de demandes d'asile, David Montagnier.
Oui, malgré les multiples déclarations de fermeté d'Emmanuel Macron sur le sujet, les demandes d'asile ont augmenté de plus de 30% par rapport à l'année dernière. 137 000 ont été déposées, principalement des ressortissants afghans du Bangladesh, de Turquie et de Géorgie. À noter l'arrivée d'Ukrainiens en raison de l'invasion russe au mois de février. Ils ont été près de 66 000 à avoir bénéficié de la protection temporaire, principalement des femmes. Les titres de séjour sont également en forte hausse. 320 000 ont été délivrés pour la première fois. C'est 17% de plus en un an.
Et justement, David, ces demandes de titres de séjour, c'est pour quel motif ?
Eh bien, tout d'abord, pour les études. Plus de 108 000 étudiants étrangers ont bénéficié de ces autorisations au titre de l'immigration familiale. Ensuite, ce sont 90 000 demandes, des chiffres stables par rapport à l'an passé. Enfin, pour des motifs économiques, un chiffre, lui, en nette augmentation de plus de 45%. Hausse également des régularisations de sans-papiers, plus de 34 000 l'année dernière, soit plus de 8% par rapport à 2021. Dans le même temps, les expulsions du territoire ont elles aussi légèrement augmenté, plus de 15 000 l'année dernière, mais c'est un tiers de moins qu'en 2019, l'année de référence avant Covid. Près de 24 000 expulsions avaient été ordonnées.
David Montagnier.
On est tous passés par là, vouloir contacter une administration par téléphone et attendre indéfiniment qu'on veuille bien nous répondre.
Et oui, parce que tout le monde ne maîtrise pas Internet. 15% des Français n'y ont pas accès. 28% ne sont pas en mesure d'effectuer une démarche administrative en ligne. Et donc, le magazine 60 millions de consommateurs, qui avait déjà mené l'enquête il y a 6 ans, a voulu savoir si les choses avaient changé quand on appelait Pôle emploi, la CAF ou la Sécu. Résultat, Céline Géraud, il faut vraiment être patient.
Oui, patient et fan de mélodies comme celle-là.
L'assurance maladie, bonjour.
Ah, ces délicates musiques d'attente, vous aimez ? Eh bien, pour mener son enquête, 60 millions de consommateurs les a beaucoup entendus. 1532 appels pendant 15 jours consécutifs auprès de 4 services publics très sollicités. Résultat, mention passable hein, pour Pôle emploi et la Caisse de retraite, avec respectivement 84 et 72% des appels qui aboutissent. Plus compliqué du côté de la caisse d'allocation familiale, un appel sur deux fait chou blanc. Et le bonnet d'âne, eh bien, il revient à l'assurance maladie avec 72% d'appels qui échouent après 5 minutes d'attente. Et quand ça décroche, seuls 5% des réponses s'avèrent suffisamment précises. Lionel Mauguin, co-auteur de l'enquête pour 60 millions de consommateurs.
Trop souvent, quand on a la chance d'avoir un agent au bout du fil, eh bien, il nous renvoie sur les sites internet des organismes en question. Et donc, vraiment, ça tourne en rond. Et c'est pas du tout satisfaisant.
Oui, ça tourne en rond et la direction de l'assurance maladie se défend en précisant que le nombre d'appels a explosé hein, depuis la crise Covid, passant de 20 à 40 millions d'appels par an pour seulement 2000 téléconseillers, un métier lui aussi confronté à une crise de recrutement. Alors, pour ne plus laisser toutes ces personnes qui ont des difficultés à manier le digital s'endormir à côté de leur téléphone avec ça... Ah, je sais que vous en redemandez. Eh bien, 60 millions de consommateurs préconisent tout simplement la mise en place d'un guichet de proximité en présentiel hein, qui regrouperait ces 4 services pour faciliter la plupart de ces démarches administratives.
Voilà, Céline Géraud, et je vous assure qu'on ne s'endort pas du tout avec vous.
Non, il y avait aussi Vivaldi.
Les 4 saisons, forcément.
Le printemps, même.
Comme ça, c'était avant.
Ça, c'était avant. Le sport, l'équipe de France de handball se prépare à la veille de sa demi-finale du Mondial. C'est demain.
Oui, les Bleus ont quitté ce matin la Pologne pour la Suède et ils viennent de découvrir la salle où ils vont jouer demain soir contre les Suédois. Martin Lange, vous êtes en direct de Stockholm. Vous avez assisté hein, à l'entraînement des Bleus. Ils savent bien que ça ne sera pas facile dans une salle acquise aux Suédois.
Oui, un entraînement à la Tele 2 Arena. Habituellement, c'est un stade de foot couvert avec plus de 30 000 spectateurs. Mais pour ces championnats du monde, hein, la capacité est seulement de 20 000 personnes. Mais attention, ça sera probablement 20 000 supporters suédois survoltés. Pas de quoi effrayer, dit Kamem.
Très très belle salle. Ça m'a rappelé à Lille un peu. En 2017, c'était un peu la même ambiance, je crois que c'est un terrain de foot qu'ils ont divisé. On a vu des images un peu, avec toute la salle, un peu tout le monde en jaune. Ça va être une grosse ambiance, donc c'est des matchs qu'on a forcément envie de jouer.
2017, c'est un bon souvenir, hein, puisque les Bleus avaient éliminé les Suédois à Lille, justement. Depuis, c'est un peu plus compliqué face aux Scandinaves. Les joueurs de Guillaume Gilles restent d'ailleurs sur 2 défaites à ce stade de la compétition, hein, les demi-finales. Il y a donc un petit sentiment de revanche au sein de la délégation tricolore. Des Bleus qui viennent de terminer leur entraînement, vous l'avez dit Hélène. À noter que Nicolas Karabatic, hein, le taulier de cette équipe de France, s'est entraîné à part. Il reste incertain pour demain.
Et un peu de citron et de miel pour votre voix, Martin Lange, en direct de Stockholm, en Suède, pour Europe 1, la radio officielle du Mondial de hand. Un mot de rugby, les clubs amateurs ont tranché, ils ne veulent pas de Patrick Buisson pour remplacer Bernard Laporte à la tête de la fédération. Le comité directeur va se réunir demain en présence de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, pour tenter de trouver une solution. Place maintenant au marché financier avec Didier Hamaud de Boursier.com. Didier, Paris termine en hausse.
Oui, ça continue, plus 0,7%, le marché progresse encore, on est pratiquement sur les 7100 points, 7095 points, ça fait quand même plus 10% depuis le début de l'année sur le CAC 40, un marché qui reste au plus haut depuis un an dans une ambiance assez calme avant les réunions des banques centrales la semaine prochaine avec la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne ou la Banque d'Angleterre. Le marché attend aussi les premiers résultats des grandes entreprises qui commencent à arriver au compte-gouttes. Ce sont les chiffres 2022, évidemment. On a des marchés assez calmes aussi en Europe, plus 0,3%. Ça monte quand même, hein. Bruxelles, plus 0,1%. Amsterdam, plus 0,8%. Et donc, le CAC 40 en hausse, 0,74% de mieux. 7 095 points ce soir.
Merci Didier Hamot.
Et merci à vous Hélène Zélani. À tout à l'heure, 20h pour un nouveau journal. On retrouve Valérie Darmon, la météo. Valérie, il fait encore froid demain.
Effectivement Raphaël, avec des minimales entre 1 et 3 sur le nord-ouest, 4 à 6 sur les côtes de la Manche et de la Bretagne, 1 à moins 2 en général sur le reste de la France. Des maximales qui sont un tout petit peu en hausse, elles affichent 7 à 12 sur les bords de la Méditerranée, 5 à 8 de la Normandie, de la Bretagne à l'Aquitaine et entre 1 degré et 5 degrés ailleurs, 5 notamment à Paris aux heures les plus chaudes comme à Lille. Pour le ciel, il évolue assez peu sur le pourtour méditerranéen jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Et jusqu'en Savoie, il est ensoleillé. Mistral et Tramontane continuent de souffler en rafale entre 60 et 70 km/h dans le sud, voire 90 sur le Roussillon. À l'opposé du Pas-de-Calais à la Normandie, en Bretagne, jusqu'au Pays de la Loire, on a de courtes éclaircies qui alternent avec des passages nuageux. Sur le reste du pays, le ciel qui reste couvert, qui reste gris, comme aujourd'hui. Il neigeote toujours ici et là. Les routes peuvent verglacer, attention, en Bourgogne et en Lorraine. Il neige aussi sur le nord du Massif central, le Tarn, la région toulousaine, le Gers, les Pyrénées. La couche de neige fraîche peut atteindre 10 cm sur la montagne Noire et les sols peuvent blanchir de Toulouse à la vallée de l'Aude.
C'est bien noté. Merci beaucoup Valérie Darmon. Je vous dis à tout à l'heure aux environs de 23h07. Voilà, j'ai envie d'être précis ce soir pour un nouveau point sur le temps. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous recevons notre premier invité, le sénateur Horizon, Claude Maluret. Il s'est fait remarquer hier lors des questions au gouvernement au Sénat. Il a clairement appelé à armer et lourdement l'armée ukrainienne. Explication dans quelques instants. Vous pouvez réagir, intervenir à l'antenne. Il suffit de nous appeler au 3921. Le standard d'Europe 1 est ouvert et vous accueille tous les soirs. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Il est connu pour avoir cofondé Doctissimo, avoir été secrétaire d'État aux droits de l'homme entre 1986 et 1988. Il est connu pour ses discours remarqués. Ils le sont encore plus à l'heure des réseaux sociaux. On se souvient de son discours sur les antivax, notamment il n'y a pas si longtemps. Le sénateur Claude Maluret a encore joué les singuliers hier lors des questions au gouvernement au Sénat.
Chaque jour en Ukraine, des femmes et des enfants meurent dans les décombres de leurs immeubles pulvérisés. Chaque jour, des soldats tombent parce que manquent les armes pour résister à Wagner et à ces vagues d'assauts de trains de misère envoyés au massacre. La France est désormais devant ses responsabilités. Après l'Angleterre, la Pologne, les Pays-Baltes et maintenant l'Allemagne, va-t-elle fournir les armements capables de changer l'issue de la guerre ? Le président de la République expliquait que ces armements ne doivent pas être escalatoires. On ne peut dire aux Ukrainiens qu'on les soutiendra jusqu'à la victoire finale et en même temps qu'on ne veut pas d'escalade. Parce que par définition, la victoire nécessite une escalade.
Voilà un appel clair à livrer des armes lourdes pour combattre sans risque, selon lui, une armée russe en déroute en Ukraine. Ces mots du sénateur Claude Maluret ne laissent évidemment pas indifférent. Vous pouvez réagir, intervenir à l'antenne en composant le 39-21, 50 centimes la minute. Bonsoir, monsieur le sénateur.
Bonsoir.
Alors pour vous, livrer des chars lourds à l'Ukraine, comme l'ont décidé l'Allemagne et les États-Unis et beaucoup d'autres pays occidentaux, relève de l'évidence, si j'ai bien compris.
Oui, et puis ça fait longtemps, je pense, qu'on aurait dû le faire, puisque ça fait des semaines qu'on tergiverse sur cette question. Les Ukrainiens ont besoin, il y a un grand déséquilibre, ils ont besoin de chars lourds, ils ont besoin de défense sol-air efficace, et il suffit de regarder la télévision tous les soirs et les immeubles détruits par les bombes, et puis ils ont besoin d'artillerie, parce qu'ils sont très inférieurs aux Russes de ce point de vue-là. Ils en ont besoin parce que les Russes préparent une contre-offensive, une nouvelle offensive, et le déséquilibre des forces est très lourd. De deux choses l'une, soit ils n'ont pas les armes suffisantes et ils vont perdre cette guerre, et la Russie sera aux portes de l'Europe, à la frontière de l'Europe, et avec des conflits potentiels sur les Pays-Baltes, la Pologne, etc. Et ce sera beaucoup, beaucoup plus cher payé. Ou bien ils arrivent à les repousser et Poutine subira les conséquences de sa folie.
Alors, si on se penche un peu sur le dossier très, très précis des chars lourds, ça n'est pas si évident. Hein. Les fameux Leclerc, hein, les chars lourds français, si Paris en donne une partie de ces quelques 200 véhicules blindés, ce qui est peu au passage, en fait, ça complexifierait beaucoup plus la tâche des Ukrainiens. Hein. Ils auront prochainement trois types de tanks, les Challenger britanniques, les Léopard allemands et les Abrams américains. Ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques, ne nécessitent pas le même entretien, les mêmes compétences. Alors, si on ajoute en plus le Leclerc qui a lui aussi ses spécificités, on ne va pas forcément rendre un service aux Ukrainiens, Claude Maluret.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne suis pas sûr que le plus opportun soit de livrer les chars Leclerc. Ce qu'il faut, c'est que les Ukrainiens reçoivent les trois types d'armes dont je vous ai parlé et que les alliés se concertent pour se répartir les choses. Et de ce point de vue-là, les chars Léopard sont bien entendu beaucoup plus nombreux et beaucoup plus adaptés à la situation. Mais par contre, la France dispose de missiles solaires, dont je vous en ai parlé tout à l'heure, de cette défense solaire qui sont remarquables, la coproduction franco-italienne des Mamba. Et si, par exemple, les Allemands, les Polonais et d'autres peuvent livrer les chars Léopard, les Américains les chars Abrams, ça ne fera plus que deux sortes de chars. Et à ce moment-là, les Français peuvent parfaitement se spécialiser dans la défense sol-air ou dans l'artillerie. Ils l'ont déjà fait avec les canons César. Donc voilà, il faut se répartir les choses. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que depuis le début de cette guerre, les Ukrainiens ont reçu des matériels de tout le monde, très très disparates, et ils ont montré à quel point ils sont virtuoses pour arriver à faire une interopérabilité de tous ces armements. Donc moi, je leur fais confiance, mais vous avez raison. Il ne faut peut-être pas multiplier le type de chars, il faut plutôt se spécialiser dans chaque armement lourd dont ils ont besoin.
Alors, hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelait l'Occident à envoyer des missiles longue portée, des avions de combat. C'est vrai que notre aide militaire est très variée, mais elle monte en gamme à mesure que le conflit s'enlise, dure. Beaucoup d'experts militaires nous le disent chaque soir sur Europe 1, cette guerre va encore durer. Est-ce qu'on ne prend pas le risque d'être pris dans une sorte d'engrenage? Et à vous entendre également, sénateur Maluret, on a l'impression que l'Ukraine ne combat pas une puissance nucléaire. Il ne faudrait pas l'oublier quand même.
Oui, alors la théorie de l'engrenage, vous savez, c'est la théorie des lignes rouges. Ça fait la théorie de l'escalade. Moi, ce que je constate, c'est que depuis un an, on laisse le monopole de l'escalade à Poutine. C'est pas nous qui escaladons, c'est à chaque fois lui qui fait une avancée supplémentaire dans la barbarie. Et on vient de le voir les dernières semaines avec la destruction des immeubles, des infrastructures électriques, etc. Et par conséquent, et chaque fois qu'on répond, il nous dit « mais attention, vous allez escalader, on ne peut pas continuer comme ça ». L'escalade, c'est lui. Et on s'aperçoit que chaque fois qu'il a fixé une ligne rouge, c'est le deuxième point important, et qu'on l'a franchi, il ne se passe rien. Il ne se passe rien il annonce l'apocalypse et il ne se passe rien pour une raison très simple. C'est que Poutine ne peut pas aller plus loin quand on franchit une marche parce qu'il est déjà au maximum. Il n'a plus de possibilités aujourd'hui et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut, avant qu'il puisse se reconstituer, c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut le battre. Et bien entendu se pose le problème que vous citez du nucléaire. Le nucléaire ne se pose plus depuis qu'à Samarkand, vous l'avez vu il y a quelques mois, depuis qu'à Samarkand,
la rencontre avec le Premier ministre indien et le président chinois.
Voilà, Xi Jinping et Modi, publiquement, devant les télévisions, l'ont humilié en lui disant « il n'est pas question, vous êtes mort si vous utilisez l'arme nucléaire ». Et Poutine s'est aplati, piteux, et par conséquent, on sait aujourd'hui qu'à partir du moment où les Indiens et les Chinois ne laisseront pas Poutine, parce que ça aurait des conséquences dévastatrices, et qu'eux ne sont pas fous, même s'ils ne sont pas très partisans de l'Ukraine et plutôt alliés de Russie, ils ne sont pas fous, ils ne veulent pas. Et par conséquent, c'est encore un chantage qui n'a pas de sens et sur lequel, moi, je n'ai absolument aucun doute que ça ne fera pas partie de l'engrenage.
On va marquer une courte pause. Je lance un appel à nos auditeurs à nous appeler, si vous voulez interagir, poser vos questions au sénateur Claude Maluret. Peut-être que sa position vous inquiète, vous étonne. Peut-être que vous êtes d'accord avec lui. Venez nous le dire au 39-21. On sera très, très content de vous entendre et de vous répondre. On revient dans quelques instants avec le sénateur Claude Maluret. À tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Le sénateur Claude Maluret est notre invité ce soir sur Europe 1. Claude Maluret, hein, qui fait partie d'Horizon, hein, le parti d'Édouard Philippe. Il est avec nous ce soir parce que hier, au Sénat, lors des questions au gouvernement, face à la Première ministre, il a appelé clairement à l'escalade, à livrer des équipements lourds à l'armée ukrainienne. Selon lui, hein, si je résume à peu près son raisonnement, Vladimir Poutine ne fera rien si on livre des armes lourdes, hein, des missiles sol-air très performants français à l'armée ukrainienne. C'est lui qui fixe les lignes rouges. Il prend notamment, pour exemple, la rencontre de Sakharmand, hein, c'est une ville en Ouzbékistan où se sont rencontrés Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le premier ministre indien Narendra Modi, qui lui ont dit si tu touches à l'arme nucléaire, ça va mal aller. Mais Claude Maluret, pardon, Vladimir Poutine, son armée semble en déroute actuellement en Ukraine. Il semble de plus en plus acculé, paranoïaque également, c'est ce qu'on nous dit, hein, selon les informations des renseignements occidentaux. Est-ce que c'est pas là le plus grand danger ? Un homme aussi puissant que Vladimir Poutine, poussé dans ses derniers retranchements et qui, dans un acte de désespoir, appuie sur le bouton.
Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la réunion de Samarcande.
D'abord, il n'est pas le seul. Ce sont des mots, les Samarcandes.
Oui, mais il n'est pas le seul à appuyer sur le bouton. Et à partir du moment où ses alliés chinois et ses demi-alliés indiens lui disent qu'il ne veut pas le faire, l'équipe au pouvoir à côté de lui, on ne déclenche pas le bouton atomique comme ça, comme dans les dessins
animés. Bien évidemment.
Donc je ne crois pas une seconde à cette hypothèse. Et Poutine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire ce qu'il sait faire, ce qu'il a toujours fait depuis qu'il est colonel du KGB en Allemagne et depuis qu'il dirige la Russie. Il va, parce que son armée n'arrive plus à conquérir le terrain, il va bien entendu repréparer une offensive, mais je ne crois qu'il ne la gagnera pas. Et ensuite, il va tout faire pour geler ce conflit, pour que le Donbass continue et le Donbass et les autres oblasts soient occupés, pour que la Crimée reste occupée et pour que ça dure 10 ans. Et pendant ce temps-là, il lancera des actions terroristes. Il le fera sur les pays baltes, il le fera sur la Pologne, il le fera peut-être même comme il le fait avec les cyberguerres dans les pays européens de l'Ouest ou aux États-Unis. Et ce sera une plaie ouverte, une plaie béante pendant les 10 ans qui viennent, jusqu'à ce qu'il casse sa pipe, parce qu'il commence quand même un peu vite tout jeune. Mais voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il va faire. Et comme de toute façon, les Ukrainiens n'iront pas franchir la frontière de la Russie, il ne sera pas dans une situation totalement acculée et totalement désespérée. Il y a des tas de raisons qui expliquent pourquoi l'escalade ne s'arrêtera pas, n'ira pas jusqu'à l'apocalypse.
Alors, nos auditeurs réagissent. Christiane nous appelle au 3921, le standard d'Europe 1. Bonsoir Christiane.
Bonsoir. Bon alors moi j'ai 58 ans, voilà.
Ouais.
Écoutez, je trouve que oui, il faut en fait il faut envoyer ce qu'ils nous demandent, quoi, les Ukrainiens. Et je vais vous dire, parce que moi je suis pas une spécialiste de ces sujets militaires, mais bon, ils savent eux de quoi ils ont besoin. Moi, ça fait quand même un an bientôt que la Russie fasciste, hein, de Poutine est en train de massacrer ce peuple. Alors, moi, je trouve que ça suffit, quoi. Et quant au chantage nucléaire, déjà, j'y crois pas trop non plus, parce que c'est non pas qu'ils soient humanistes, hein, très loin de là, ils sont pas du tout humanistes. C'est des fascistes, mais par contre, ils vont pas se faire risquer de se faire détruire eux-mêmes, parce que nucléaire, c'est ça quand même, hein. Il y a quand même, ils ont peur pour eux, voilà. C'est comme quand il y avait, vous savez, tous ces Russes là qui voulaient se réfugier. Alors ceux-là, franchement, ces réfugiés-là, on n'en veut pas. Qui voulaient se réfugier à l'Ouest en disant oui, on veut pas combattre. Oui, ils voulaient pas combattre parce qu'ils voulaient pas. C'est pas parce qu'ils voulaient pas tuer les Ukrainiens, ça, ils étaient bien d'accord. Mais c'est parce qu'ils voulaient pas se faire tuer eux. Vous voyez, ils sont comme ça. Faut les traiter en fait comme ils méritent, quoi, par la force, c'est tout. Mais pas. Et nous, on n'est pas. Quand on dit on n'est pas co-belligérant, on ne l'est pas, puisque on n'a pas des troupes là-bas. Par contre, ben on envoie ce qu'ils demandent et puis c'est tout. Moi, c'est mon avis. Hein. Qu'on envoie ce qu'ils nous demandent.
On peut dire qu'on fait la guerre en Ukraine par procuration, Christiane.
Oui.
Voilà,
ouais,
parce qu'on envoie des armes. Et sans ces armes, ouais, les Ukrainiens ne résisteraient pas, ça c'est un fait.
Bien sûr, mais on peut pas faire moins. Parce que bon, faire moins, c'est les laisser encore plus se faire massacrer. Et là, c'est insupportable, tout ce qu'on entend et qu'on voit tous les jours. Enfin, franchement, faut arrêter, quoi. On a perdu 24 ans, je vais vous dire, parce que ça fait 24 ans qu'il est au pouvoir, Poutine. Hein. On savait qu'il venait du KGB. Hein. Alors, on avait tout de suite compris. Enfin, moi, je sais pas, j'avais tout de suite compris. Hein. Je n'ai jamais pris pour un modéré. Et je suis une simple citoyenne, hein. Je ne l'ai jamais pris pour un modéré. Hein.
Et une fidèle auditrice d'Europa également, merci d'être avec nous ce soir au 39-21, Christiane. Claude Maluret, le grand méchant Poutine, ça n'existe pas, je ne dis pas ça dans le sens russophile du terme, mais en fait, il ne faut pas avoir peur de lui, c'est ce que vous nous dites.
Oui, bien sûr, il ne faut pas avoir peur de lui, c'est d'ailleurs... pour ça qu'on tergiverse depuis longtemps. Non seulement il ne faut pas avoir peur de lui, mais enfin, cette année qui vient de se passer a démontré que son armée était une armée, était un tigre de papier, pour parler comme les Chinois, qu'elle était évidemment minée par la corruption et qu'on en a le résultat aujourd'hui et que les Ukrainiens, avec une disproportion de 1 à 10, arrivent à tenir et même arrivent à reconquérir des endroits. Mais si, moi je ne suis pas russophobe, je suis poutinophobe, mais je ne suis pas russophobe. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que le drame de Poutine, ce n'est pas seulement pour les Ukrainiens, c'est que depuis 20 ans, il pille la Russie, il ne la développe pas, il vend les bijoux de famille avec le pétrole, le gaz. La Russie ne vit que de ça aujourd'hui. La Russie, c'est le Nigeria avec la bombe atomique, si on veut faire une caricature. Et la Russie, Poutine, c'est ce qu'il peut y avoir de pire pour les Russes. Et maintenant, il vient d'isoler pour des années et des années, son pays, d'une bonne partie du monde, c'est un paria à l'ONU, 1 200 000 jeunes sont partis, les soldats se font massacrer dans une boucherie, envoyés dans des vagues d'assaut qu'on ne pensait pas pouvoir voir au XXIe siècle, qu'on n'aurait pas pensé pouvoir voir après Stalingrad, et bien ça continue. Poutine, c'est non seulement ce qu'il y a de pire pour l'Ukraine, mais c'est ce qu'il y a de pire pour la Russie. Et si on aime la Russie, c'est Poutine qu'il faut faire sauter.
Alors, des auditeurs d'Europa ont du mal à comprendre votre raisonnement, sénateur Maluret, c'est-à-dire chercher ou ne pas avoir peur d'aller vers l'escalade avec la Russie pour réinstaurer la paix. C'est le cas d'Anton qui nous appelle au 39-21. Bonsoir Anton.
Bonsoir.
Pour vous, il ne faut surtout pas livrer des armes lourdes à l'Ukraine. Il faut surtout négocier, quoi. Oui.
Alors, je trouve que les propos du sénateur sont choquants, pour ne pas dire excessivement naïfs. Lorsque vous avez deux personnes qui se battent dans la rue, est-ce que vous allez donner un couteau à une personne pour mieux se défendre contre l'autre? Est-ce que c'est une manière civilisée de se comporter que d'envoyer des armes dans un pays où deux personnes se disputent pour des histoires locales, des histoires de prise de tête? Et nous sommes en train d'envoyer des armes à un pays qui s'est déjà corrompu, autant que la Russie d'ailleurs, pour défendre aucune valeur, puisqu'il ne s'agit pas de combattre le communisme ou une idéologie. Nous sommes en train d'envoyer des armes à un pour mieux taper sur l'autre. Et contre qui nous battons-nous? Contre les Russes. Les Russes qui ont perdu 27 millions de leurs ressortissants pour nous sauver du nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le pays qui a fait le plus de sacrifices pour sauver l'Europe du nazisme. Et c'est nous qui les traitons aujourd'hui de nazis. C'est nous qui envoyons des armes alors que l'Europe se veut un continent pacifiant. Est-ce que vous trouvez que les propos du sénateur sont dignes d'une Europe civilisée?
Alors, si vous voulez interpeller le sénateur Maluret, il est avec nous. Vous pouvez lui poser une question, lui faire part de vos réactions. Je crois qu'il vous a entendu. Peut-être, Anton?
Oui, mais...
Alors, sénateur.
Je vais vous répondre deux choses. Je pense que votre histoire de la Deuxième Guerre mondiale, elle est extrêmement partielle. C'est une drôle de vision parce que je vous signale qu'en 1939, si les Allemands ont attaqué la France et si la France a été envahie, c'est parce qu'il y avait le pacte germano-soviétique qu'ils ont dépecé, que les Russes ont dépecé avec les Allemands, la Pologne et toute une partie de l'Europe de l'Est. Et par conséquent, cette guerre, elle a été commencée par la Russie et par l'Allemagne. Et nous en avons été les premières victimes, puisque Hitler
a
pu nous attaquer.
Soyons précis, ça n'était pas la Russie à l'époque, c'était l'URSS.
C'était l'Union soviétique, voilà. Et par conséquent, cette vision de la guerre, et c'est une vision irénique, les 27 millions de morts, et d'abord parmi ces morts, une bonne partie étaient des Ukrainiens, une très bonne partie, puisqu'ils étaient en première ligne par rapport aux Allemands. Donc cette vision de la Deuxième Guerre mondiale est une vision irénique qui ne tient pas.
les Soviétiques sont largement responsables de la Deuxième Guerre mondiale à cause du pacte germano-soviétique. Deuxièmement, quand vous me parlez de votre analogie avec les deux personnes qui se battent, ben vous rigolez. Vous n'avez pas deux personnes qui se battent à main nue à qui on va donner un couteau à l'un. Vous avez d'un côté un géant qui est avec une mitraillette et qui attaque un petit qui ne peut pas se défendre et qui n'a rien. Et par conséquent, dans ces conditions, bien sûr qu'il faut aider le petit à se défendre. Parce que si vous ne l'aidez pas à se défendre, eh ben le grand va non seulement le bouffer, mais le tuer. Et par conséquent, bien entendu qu'il faut les aider. Bien entendu, et qu'il faut repousser la Russie dans ses frontières.
Les aider matériellement ou envoyer des soldats, sénateur Maluret ?
Non, les aider matériellement, on va pas... Ouais. Pour le moment, personne ne parle de vouloir envoyer des soldats, mais il faut leur donner les moyens, et d'ailleurs...
Vous entendre, vous parlez de désescalade assez franchement. Après tout, la désescalade, une fois qu'on y est, une fois qu'on a livré des avions de combat, peut-être des sous-marins, on va finir par envoyer des soldats, puisque cette guerre va durer des années, sénateur.
Je ne pense pas, les Ukrainiens ont montré qu'ils savaient parfaitement se servir des armes qu'on leur envoie. Avec beaucoup moins d'armes que les Russes, ils arrivent à les repousser. Et par conséquent, ce qu'il faut quand même voir, parce qu'il faut toujours en revenir à ça, c'est que l'escalade, c'est Poutine, c'est pas nous. Nous, on répond à l'escalade. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur et de reculer et de ne pas livrer d'armes. C'est de ne pas avoir peur de la contre-escalade, mais l'escalade, son responsable, c'est Poutine, c'est la Russie, c'est pas nous. Faut pas inverser les choses.
Alors, Xavier de l'Isère nous adresse cette question sur le répondeur du 39-21, le standard d'Europe 1. Pourquoi les négociations n'ont-elles pas abouti? Pourquoi, en fait, n'ont-elles jamais véritablement démarré, selon vous, sénateur Maluret?
C'est très très simple. Poutine a dit « Nous sommes tout à fait d'accord pour faire des négociations à condition que l'Ukraine accepte que le Donbass et la Crimée restent russes. » Et à partir du moment où on n'est pas du tout prêt à faire la moindre concession, à partir du moment où on n'est pas prêt à négocier, y compris sur les terres que les Russes ont annexées, il n'y a plus de négociation. Celui qui refuse la négociation, c'est évidemment Poutine. Zelensky lui a proposé au début, lorsqu'il était en mauvaise position, de faire des négociations. Poutine lui dit « Oui, bien sûr, mais vous acceptez l'annexion du Donbass et l'annexion de la Crimée. » Dans ces conditions, il n'y a pas de négociation.
Alors, je vous fais part d'une dernière réaction. Celle-ci, c'est l'un de vos adversaires politiques, Gilbert Collard, aujourd'hui membre du parti d'Éric Zemmour, Reconquête, anciennement Rassemblement National. Il vous qualifie d'irresponsable sur les réseaux sociaux. Vous lui répondez quoi, sénateur ?
Je pense que... Vous savez... Moi, je déteste la guerre plus que quiconque. Vous connaissez sans doute mon passé. J'ai passé 15 ans Médecins sans frontières dans les guerres. Non pas comme militaire, mais comme médecin. Et par conséquent, s'il y a quelqu'un qui déteste les guerres, c'est bien moi. Et si quelqu'un ne peut pas me donner de leçon dans ce domaine, c'est M. Collard qui, à mon avis, est un beau parleur, mais qui n'a jamais été dans ce genre de situation et qui n'y connaît rien. Et par conséquent, oui, je déteste la guerre, mais lorsque la guerre est déclenchée et lorsque cette guerre menace non plus seulement l'Ukraine, mais demain, si par hasard les Russes gagnaient tout le flanc est de l'Europe, toute la frontière balte, polonaise, etc., c'est déjà comme ça en Moldavie, c'est déjà comme ça en Géorgie, les conflits gelés, les troupes russes sur place et ces pays qui ne peuvent plus s'en sortir, bien entendu qu'il faut arrêter ça, parce que si nous ne l'arrêtons pas aujourd'hui, demain, beaucoup de gens disent que ça nous coûte cher de soutenir l'Ukraine. Oui, ça nous coûte cher, mais ça nous coûtera beaucoup plus cher de ne pas les soutenir si demain les Russes sont à la frontière de l'Europe. Parce que je peux vous dire que des chars, à ce moment-là, il faudra qu'on en construise beaucoup, 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 et des missiles, et ça va nous coûter infiniment plus cher.
Merci beaucoup, sénateur. Le sénateur Claude Maluret, qui a accepté l'invitation d'Europe Soir, qui est venu développer son point de vue, qui peut heurter, qui peut choquer, qui peut susciter l'incompréhension, mais il l'a fait avec beaucoup de tranquillité, très posément. On était très contents de l'entendre, très contents de vous entendre également, vous aussi, chers auditeurs, au 39-21. Vous pouvez continuer à nous appeler pour parler de l'autre sujet de la soirée, ce pont aérien qui est maintenant en service depuis ce matin 8h entre Dijon et Nevers dans la Nièvre, ce qui est un authentique désert médical. Alors les ponts aériens, est-ce un remède de fortune, une solution durable? On va en parler en long, en large et en travers avec le docteur Lemoine, président de l'ordre du Conseil de l'Ordre des médecins de la Nièvre. vous nous parlez, vous nous posez vos questions au 39-21. On marque une pause, à tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Revenons maintenant sur ce dont nous parlions dans le journal d'Hélène Zélani, ce pont aérien médical entre Dijon et Nevers, la Nièvre, un authentique désert médical. C'est également le département où, d'après l'INSEE, on trouve le plus de zones rurales dites fragiles. Là, on se déplace mal et on trouve peu d'emplois. Venez participer à notre discussion au 39-21, 50 centimes la minute. Le 39-21, le standard d'Europe 1. Élise se fera un plaisir de vous accueillir. Nous sommes maintenant donc avec le docteur Thierry Lemoine. Il est président du Conseil de l'Ordre des médecins de la Nièvre. Bonsoir, docteur.
Bonsoir.
Alors ce matin, 8 médecins venus de Côte d'Or ont donc honoré la première rotation de ce pont aérien. C'est une solution qui soulage sur place, je suppose.
Oui, tout à fait. Ben, écoutez, c'est de la difficulté que viennent les solutions originales. Alors effectivement, on a eu un pneumologue, un cardiologue, un médecin orthopédiste, un médecin de médecine nucléaire, un gynécologue et deux médecins des SOS médecins, qui sont arrivés ce matin. Alors, certains sont jeunes, d'autres sont des professeurs plus expérimentés. Effectivement, ça va nous permettre de pallier pendant un certain temps le manque de, à la fois de spécialistes et de médecins généralistes, en particulier pour les soins non programmés en journée.
Alors, je crois que le maire de Nevers envisage de pérenniser ce pont aérien. C'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, parce que c'est pas la panacée, le remède idéal aux déserts médicaux, hein.
Oui, bah c'est évident que c'est un petit peu compliqué pour nous. On a le mérite d'avoir un maire qui essaye de faire des choses. Alors effectivement, pour le moment, on a un vol par semaine. Peut-être plus dans l'avenir, avec peut-être l'ouverture également à d'autres métiers, peut-être des paramédicaux, des chefs d'entreprise, et puis aussi des étudiants. On a beaucoup d'internes qui viennent à Nevers. Et puis malheureusement, on a la ligne SNCF entre Dijon et Nevers qui est fermé pendant 7 mois. Donc effectivement, cette ligne aérienne va nous rendre service et rendre service aux étudiants en médecine qui vont pouvoir continuer à venir en stage, en particulier pour ceux qui ne sont pas motorisés.
Alors, docteur Lemoine, on l'a entendu hein, dans cet avion parti ce matin de Dijon. Il y avait beaucoup de médecins spécialisés. C'est ce qui manque le plus dans la Nièvre.
Alors, on manque de tout.
Ouais, je crois que le département, entre 2010 et 2021, vous me corrigez si je me trompe, a perdu près d'un quart de ses médecins généralistes. Hein.
Oui, ça doit être à peu près ça. Cette année, par exemple, on a eu 35 inscriptions de nouveaux médecins pour 67 départs. Voilà. Vous voyez, donc, c'est assez dramatique. On a plus de dermatologues du tout. On a un allergologue, par exemple. On a plus que deux pneumologues, deux rhumatologues. Tout ça pour 210 000 habitants. C'est vrai que c'est assez compliqué. Puis on ne l'explique pas tellement parce qu'on a un département qui est assez extraordinaire avec une qualité de vie formidable. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est, vu de notre planète, c'est assez surprenant.
La Nièvre, effectivement, c'est un département magnifique, hein, la région de Nevers. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de zones rurales dites fragiles. On a du mal à se déplacer. Il y a très peu d'emplois également. Alors résultat, les plus jeunes s'en vont vers des zones mieux reliées où on trouve plus de travail et les gens qui restent vieillissent de plus en plus. Je crois que la moyenne d'âge, c'est 53,8 ans dans la Nièvre contre 50,3 à l'échelle nationale. Les patients vieillissent et les praticiens également.
Oui, alors les patients vieillissent, les praticiens également. Je vous confirme qu'on a plus de 50% des médecins nivernais qui ont plus de 60 ans, donc l'avenir n'est pas très réjouissant. Alors après, le paradoxe, c'est que par contre, on est quand même la deuxième ville étudiante de Bourgogne, on est quand même attractif au niveau étudiant. C'est vrai que c'est assez paradoxal, mais je pense qu'ils s'en vont probablement après, parce que comme vous l'avez très justement dit, le tissu industriel et économique local, comme on est un petit peu enclavé, effectivement, n'est pas formidable.
Voilà, tout ça va un petit peu ensemble. Alors, on nous appelle au 39-21. Marie-Lou est avec nous. Bonsoir, Marie-Lou.
Oui, bonsoir.
Est-ce que vous me permettez de préciser auprès du docteur Lemoine que vous êtes médecin à la retraite ?
Oui, médecin retraité. Enfin, moi, je suis médecin biologiste et mon mari était médecin généraliste.
D'accord.
en campagne.
Ah, bah, vous connaissez bien le sujet des déserts médicaux.
Justement. Et je suis absolument atterrée de voir ce refus des jeunes médecins d'une part de s'installer en campagne. Ça, c'est une chose. Mais il y a un phénomène qui se produit en ville, parce que j'ai pris ma retraite en ville, j'ai été contrainte, suite au décès de mon mari, à venir m'installer en grande ville. Mmh. Et je suis atterrée parce que le même problème qui existe en campagne existe aussi en ville. Les médecins généralistes ne veulent plus se déplacer pour faire les urgences, à se déplacer. J'étais aujourd'hui encore chez mon coiffeur, dont la mère était malade, plus de 80 ans, en pleine nuit, elle a réveillé parce qu'elle avait de la fièvre et tout. Il n'a pas pu avoir SOS médecin. Quand il a appelé le médecin généraliste le lendemain, on lui promettait de pouvoir venir 2 jours après. Pendant ce temps-là, la personne, elle a le temps de mourir. Et comme il m'en faisait la remarque, heureusement que sa mère a encore lui. Il a dû emmener sa mère chez le médecin, mais il me dit que heureusement que sa mère l'a encore, parce qu'une personne isolée de cet âge serait bien handicapée. Or, de mon temps, lorsque mon mari avait son cabinet médical, ils étaient 3 médecins. C'était tout petit bourg de 900 habitants. Ils avaient un cabinet médical de 3 médecins et ils étaient sans arrêt en garde, en travail, 2 personnes au cabinet.
Il y avait un médecin 7 jours sur 7 disponible, hein, c'est bien ça.
7 jours sur 7, les week-ends de garde.
Pourquoi à cette époque-là c'était attractif?
Eh bien, pourquoi? Parce que nous, ça ne nous débectait pas de venir vivre à la campagne et de nous échapper. Il y avait un roulement de 1 jour par semaine de vacances, 1 week-end sur 3, de libre. Et donc, nous pouvions nous évader. Mais vivre à la campagne n'a rien de repoussant à partir du moment où on gagne sa vie. Vous savez, moi, j'ai vécu, nous avions débuté notre carrière professionnelle justement en grande ville à proximité de Marseille. Oui. Nous ne gagnons pas notre vie. Et un jour, j'ai dit à mon mari, moi, le soleil au-dessus de la tête, si j'ai pas d'argent pour dépenser et pour vivre, ben, ça ne m'intéresse pas. Et donc, nous nous étions déplacés et nous sommes partis en campagne. Et en campagne, on gagne sa vie. Mais maintenant, les médecins, je trouve qu'ils ont une mentalité qui se rapproche des syndicalistes qui sont en grève actuellement pour les retraites.
Alors...
C'est-à-dire ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Ils ne veulent plus travailler, ils veulent leur week-end, ils veulent vivre leur vie de famille et s'arrêter de travailler à 18h le soir. Bon,
alors,
on ne fait pas médecine pour
c'est
ça.
C'est selon vous, docteur Marilou, je vais vous appeler comme ça ce soir, une dérive contemporaine, on ne pense plus pareil qu'avant, voilà, si je résume à peu près votre pensée. Est-ce que vous partagez ce point de vue, docteur Touraine?
Alors, le moine. Mais
le moine, pardon, docteur Le Moine, excusez-moi. Marie-Louis est en Touraine et vous êtes le docteur Le Moine, dans la Nièvre. Ben, voilà, pardon,
oui,
docteur.
C'est pas vraiment ma vie. Moi, je n'arrête pas de travailler à 18h. Je travaille à titre personnel de 8h le matin à 21h le soir avec 30 minutes pour manger. Alors effectivement, il y a des endroits où les médecins font des horaires qui sont beaucoup plus légers. C'est comme ça. Après, les gardes, 96% aujourd'hui des secteurs de garde en France sont couverts. Alors, vous allez me dire qu'il y a 4% des secteurs de garde qui ne sont pas couverts. Je suis bien d'accord. Nous, dans la Nièvre, c'est comme ce que décrit ma consoeur, hein, c'est toujours pareil. Hein, nous, dans la Nièvre, tous les secteurs de garde sont couverts. On a des collègues dans les zones un petit peu reculées qui tiennent les secteurs de garde à 2 médecins. Donc,
il n'y aurait pas un pont aérien s'il n'y avait pas de problème. Hein.
Ah, ça, je suis bien d'accord. Le pont aérien est intéressant en particulier pour les médecins hospitaliers et pour les urgences non programmées de ville. Les urgences non programmées. Nous, dans la Nièvre, on a à peu près entre 20 et 25% des patients qui n'ont malheureusement plus de médecin traitant. La densité moyenne, je vais y arriver, médicale aujourd'hui est à 50 médecins pour 100 000 habitants.
Ah oui.
Il est bien évident qu'avec une densité comme celle-là, on ne peut pas On ne peut pas prendre en charge tout le monde de manière sérieuse, en sécurité. Ça n'est pas possible. Voilà.
Bon. Et ça, écoutez, c'est le résultat. Le CGD des déserts médicaux, on n'a pas fini d'en parler sur Europe 1. Merci d'être venu nous donner cette photographie de la Nièvre, une magnifique région que je vous invite d'ailleurs à aller visiter. Merci beaucoup, docteur Lemoine. Je rappelle que vous êtes président du Conseil de l'Ordre des médecins de la Nièvre. Dans quelques instants, retour de l'information sur Europe 1. Tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.